Je sais pas ce que je dois faire en fait.
C'est bon, on voit ton écran en tout cas. Restriction de diffusion, données sensibles. On
Ok, moi
voit
j'avoue,
le
moi je
file
le vois
7.
pas, je le vois pas par contre.
Ah, ça se
Attends,
tente.
je sais pas ce que.
Parce que tu as deux écrans? Bah,
Voilà, là c'est
ah
bon. oui, voilà, parce
Là,
que j'avais partagé mon truc. Et donc du coup, je
tu es
peux.
la slide 1, voilà.
Ok, super. Bon bah c'est bon.
Super.
Donc bah, bonjour
Merci.
à tous et à toutes. Donc moi je suis Frédéric Vest et je suis responsable de l'équipe en charge de la gestion des données à l'UMS Patrinat. Voilà, donc je vais vous faire une présentation assez rapide en fait sur les contraintes qui sont liées aux données. Alors environnementales, c'est plutôt aux données biodiversité. Et leur mise en application, nous, dans nos bases de données, dans nos process de diffusion. Alors, très rapidement, l'UMS Patrinat, donc, bon, c'est une UMS qui a été créée en 2017, qui est sous tutelle, co-tutelle de l'Office français de la biodiversité, du Muséum d'histoire naturelle et du CNRS, évidemment. Voilà, et dans peut-être dans une prochaine version, dans la prochaine convention de l'UMS, l'IRD intégrera aussi les tutelles. Donc nous, on a une mission, on est un centre donné sur la nature et la biodiversité et un centre d'expertise aussi. Donc on apporte pour nos tutelles des missions sur l'acquisition, la gestion de données. Et on fait aussi de l'expertise en biodiversité. Aussi, on intervient auprès de partenaires privés pour les accompagner, pareil, sur de l'expertise et aussi sur la gestion de données lorsqu'il y a lieu, en fait. Voilà. On a un territoire d'agrément qui concerne la métropole et l'outre-mer et le milieu terrestre et marin. Voilà, donc pour la présentation assez rapide de l'UMS. Je vous ai mis là une diapositive avec le lien vers le site web et puis les différents liens un peu plus précis sur l'organigramme, la liste des publications qu'on peut faire à l'UMS et puis le dernier bilan d'activité, en fait, si vous voulez en savoir plus sur ce qu'on fait. Alors, dans le cadre du centre de données, en fait, on a différentes missions, en fait, donc on met en place et on gère des référentiels et des standards sur la biodiversité, notamment sur des listes de référence sur les espèces, sur les habitats et les milieux. On gère un référentiel qui s'appelle Campanule sur les protocoles et les méthodes de collecte de données. Et on gère aussi un référentiel sur les acteurs en fait, de la biodiversité. Voilà. On va aussi coordonner des inventaires et des programmes de suivi. Voilà. On fait de la gestion et de la valorisation de données. On développe des outils et des applications informatiques pour la collecte de données ou la diffusion de données. Et on a aussi un rôle de pilotage et de mise en œuvre de systèmes d'information avec l'OFB, notamment dans le cadre du système d'information sur la biodiversité, le SINP, donc c'est le système d'information sur l'inventaire du patrimoine naturel. On est le nœud français du GBIF et on pilote aussi le pôle national des données biodiversité, donc PNDB. Et on a un rôle, comme je disais aussi, sur la diffusion de données dans le cadre de l'INPN, donc l'inventaire national du patrimoine naturel, et du GBIF. Donc les données qu'on va gérer, en fait, elles vont concerner les observations et les données sur le suivi des espèces. On a aussi des données sur les observations et la cartographie d'habitats naturels. On gère des données liées à des zonages, notamment on a en charge la gestion de la base de données sur les espaces protégés en France. On gère aussi les données du programme Natura 2000, qui est un réseau européen sur la conservation de la nature. On gère aussi des inventaires. ORZNIEF, c'est un inventaire sur les zones naturelles qui ont un intérêt écologique, floristique et faunistique. Et on gère aussi les données de l'inventaire national du patrimoine géologique, donc INPG. On a aussi une mission de rapportage de données dans le cadre de directives européennes, directives habitat faune flore, oiseaux. On rapporte aussi des données dans le cadre d'autres bases de données. Donc là, ça s'appelle CDDA, c'est la base de données européenne sur les espaces protégés. Et on nous fait aussi des rapportages sur les espèces exotiques envahissantes. Voilà. Donc on gère aussi des données référentielles, comme je disais tout à l'heure. On a aussi des données de pression sur la biodiversité. Et on calcule un certain nombre d'indicateurs et de synthèses sur la biodiversité, et notamment dans le cadre d'un observatoire qui s'appelle l'Observatoire national de la biodiversité, qui est porté par l'Office français de la biodiversité, pour la biodiversité. Voilà, donc toutes les données qu'on gère, en fait, s'inscrivent dans un cadre juridique qui a tendance à prôner l'ouverture très large des données au public, en fait. Voilà. Donc là, j'ai la frise représente, en fait, les différents textes ou les différentes directives qui s'appliquent depuis déjà pas mal de temps. Donc la première, en fait, c'est la RUE 198 qui oblige les États à donner un accès au public à l'information environnementale. Après, la seconde importante pour nous, c'est la directive Inspire en 2007 qui nous oblige à cataloguer et diffuser les données environnementales à caractère géographique, donc selon certaines normes techniques. Voilà. Et après, on a des lois, la loi biodiversité, les lois sur la République numérique qui s'inscrit dans le code de la relation l'administration avec le public, qui va obliger en fait l'administration publique à ouvrir les données et de manière gratuite. Et puis le dernier règlement en date, c'est le RGPD qui nous oblige à respecter le droit sur les données à caractère personnel. Donc en tant qu'administration publique, on a donc une obligation légale de diffuser ces données, mais dans le respect de normes d'interopérabilité. Et le respect maintenant des droits à caractère personnel. Voilà. Donc du coup, de manière un peu plus précise, nous, les restrictions qu'on aura à la diffusion, donc elles vont être, on va avoir aussi dans le cadre de cette d'ouverture des données, en fait, des restrictions de diffusion à appliquer, en fait. Donc la première, en fait, c'est ce qu'on appelle une donnée sensible. Donc c'est au sens d'un article qui figure dans le code de l'environnement, qui restreint en fait la diffusion large de certaines données pour éviter de porter atteinte aux éléments qu'elles vont concerner. Par exemple, on ne va pas diffuser les données d'une espèce qui pourrait être sensible, notamment, je sais pas, à sa collecte. On prend par exemple l'exemple du sabot de Vénus, qui est une plante qui peut être très recherchée par des horticulteurs. Voilà, donc le fait de diffuser sa précision, la sa location précise pourrait porter atteinte à la préservation de l'espèce, en fait. On a le RGPD, donc qui nous oblige dans certains cas à anonymiser les données et à obtenir le consentement des personnes. Donc là, j'ai mis dans la diapositive, à défaut d'avoir le consentement, parce que c'est quelque chose qui est assez difficile, comme ça a pu être dit dans les présentations avant, en fait, parce qu'on a des données anciennes et le RGPD ne s'appliquait pas. Donc la rétroactivité peut être compliquée, voire pas faisable, en fait. On peut aussi avoir des délais de diffusion qui peuvent nous être demandés par nos fournisseurs de données, entre guillemets, notamment dans le cadre de travaux de recherche. On va nous dire qu'on va nous demander de ne pas diffuser les données en attendant la publication. On a aussi le contexte d'acquisition qui peut nous obliger à avoir des restrictions de diffusion, notamment quand les données sont acquises par des réseaux de bénévoles. Donc on parle là de données privées, et certains réseaux peuvent nous imposer des contraintes de floutage de données pour éviter de voilà pour qu'ils continuent à avoir une mainmise sur leurs données et de pouvoir la valoriser eux de leur côté, en fait. Voilà. Et puis, on peut aussi avoir des contraintes de confidentialité dans certains cas, en fait. Donc, tout ça, en fait, finalement, nous, ça nous oblige à avoir une gestion assez fine et adaptée à chaque contexte, en fait, qui peut être assez compliqué. Voilà. Donc là, je vais vous présenter deux exemples sur les observations et suivi d'espèces, et puis aussi après sur les données de rapportage. Alors sur les observations d'espèces, qu'est-ce qu'on entend par observation d'espèces? En fait, c'est des observations d'une espèce dans le milieu naturel qui sont géoréférencées et qui peuvent être acquises dans le cadre de protocoles ou non, en fait. Donc les données qu'on va récolter, c'est l'espèce, en fait, le quoi, le qui, donc qui a observé, qui a déterminé les espèces des espèces, le camp, donc la date ou la période d'observation, et le où, la localisation, et éventuellement le comment, donc ça veut dire que la méthode ou le protocole qui nous a permis de collecter cette information. Et puis on a différentes informations aussi sur la description, le comptage ou le contexte d'acquisition. Voilà. Donc là, je vous ai mis juste en image, en copie d'écran, c'est une autre application qui nous permet de requêter les données, qui s'appelle OpenOps, et qui nous permet de visualiser tout ça. Voilà. Donc les contraintes que nous, sur ces données, on a à prendre en compte, c'est donc du coup le contexte d'acquisition. On a beaucoup de données qui sont acquises par des réseaux de bénévoles et qui nous imposent des floutages en fonction des usages qu'on va faire des données. Voilà, donc en gros, on va nous dire la donnée précise, vous n'avez pas le droit de la diffuser. Ce qu'on va nous autoriser, c'est par exemple de diffuser la donnée au niveau de la commune ou au niveau de maillage. Voilà. Et donc, on est obligé de respecter ces règles. Dans certains cas aussi, à la demande soit des personnes ou soit des fournisseurs de données, on va être obligé d'anonymiser les données dans le cadre du RGPD. Voilà. Et on a aussi, comme je disais tout à l'heure, l'obligation d'appliquer des listes de sensibilité sur les espèces qui sont régionalisées pour éviter de porter atteinte aux espèces lorsqu'on va diffuser la donnée. Voilà. Et pour ça, on a également des licences de diffusion des données qu'on applique. On a deux licences, mais j'y reviendrai un petit peu plus tard, en fait, dans l'autre diapositive. Voilà. Donc, l'application de ces contraintes sur les données, en fait, elles vont se faire à deux niveaux. Donc, on a deux concepts importants dans les données qu'on gère. C'est ce qu'on appelle le jeu de données et les observations. Donc, un jeu de données, en gros, c'est un ensemble d'observations, en fait. Donc, l'anonymisation des données dans le cadre du RGPD et les restrictions de diffusion, le délai de diffusion et le floutage des données, va se gérer au niveau du jeu de données, en fait. Donc, on va dire, par exemple, que les données doivent être anonymisées, toutes les données du jeu de données seront anonymisées. Et pareil, s'il y a une problématique liée au délai de diffusion, toutes les données de diffusion toutes les données diffusées dans le cadre de ce jeu de données, on appliquera le délai de diffusion. Et également la même chose pour le floutage. Et la sensibilisation de données se fait au niveau de chaque observation, parce que c'est un triptyque, c'est le croisement, en fait, en gros, une espèce, à un endroit donné, doit avoir un niveau de sensibilité. Voilà, donc c'est peut-être parce que les listes de sensibilité sont régionalisées, en fait. Une donnée pourrait être sensible en Bourgogne-Franche-Comté et pas forcément en Bretagne. Donc là, cette diapositive, en fait, ça représente un petit peu le workflow de la gestion des données, en fait. Là, nous, les premières étapes, en fait, quand on va nous transmettre de la donnée, c'est de la standardiser et cataloguer dans un catalogue de métadonnées, en fait. Voilà. Après, ces données, une fois standardisées, on applique un certain nombre de contrôles et de traitements pour qu'après, elles soient bancarisées. Et ces données, une fois bancarisées, on les retraite de manière à ce qu'elles soient facilement diffusables. Voilà. Et en fonction du contexte de diffusion, on aura l'autorisation de les diffuser au grand public avec un certain floutage, ou les communiquer précises si on nous le demande, en fait. Voilà. Donc, et en fonction de ça, en fait, on va appliquer les critères de soit d'anonymisation, restriction de diffusion au niveau du catalogue, et puis les critères de sensibilisation et d'anonymisation au niveau du modèle de diffusion. Donc là, toutes les données qui seront, une fois qu'on a appliqué ça, en fait, toutes les données qu'on dit floutées, en fait, peuvent être diffusées au grand public avec une licence dédiée. On l'appelle licence étalable, c'est comparable à du CC BY. Et lorsqu'on a besoin de données précises, par exemple une donnée sensible précise, il faut qu'on parle, nous, de communication de données qui est cadrée par une licence dite fermée, en fait. En gros, on restreint la diffusion de la donnée dans le cadre de la demande qui a été faite. Voilà. Donc, autre exemple, en fait, c'est sur les données de rapportage, en fait. Donc, comme je le disais tout à l'heure, en fait, on rapporte, dans le cadre de directives européennes, on a une obligation de rapporter des données dans le cadre de directives européennes. Voilà. Chaque directive européenne a des contraintes de format qu'il faut respecter, en fait. Voilà. Et ces données, elles sont considérées comme prioritaires par la Commission européenne dans le cadre de la directive Inspire. Donc, ça veut dire que ces données, on doit les diffuser selon des normes bien précises. Et souvent, ces normes Inspire et les formats qu'on doit diffuser dans chaque directive ne sont pas forcément les mêmes. Donc, ce qui nous oblige à nous adapter, à avoir des données qui doivent respecter certains formats dans le cadre de certaines directives et d'autres types de formats dans le cadre de la directive Inspire. Voilà, donc ce qui complexifie quand même pas mal la tâche, notamment parce qu'il faut respecter certaines normes. Alors là, j'ai mis les noms des normes, hein, qui peuvent peut-être paraître un peu barbares, qui sont des normes de diffusion et de téléchargement de données sur le web, qu'on appelle WMS, WMTS, WFS, qui concernent l'information géographique. Voilà. Donc, je vais peut-être pas rentrer dans le détail, hein, donc voilà. Donc, ces standards sont souvent très compliqués à implémenter, et ça nous occupe quand même pas mal de temps. Voilà. Et j'en ai fini de ma présentation. Bon. Là, je sais pas si vous avez des questions.
On a
oui.
On a perdu Christine.
Non. J'ai juste avait laissé mon micro fermé. Du coup, moi, je voulais savoir s'il y avait des questions dans l'Assemblée, mais sinon, c'est vrai que la question technique qui est posée par les flux WFS, c'est la question de contrôler la granularité et du coup, ensuite, le niveau de confidentialité des données. Est-ce que vous en êtes à l'heure est-ce qu'à l'heure actuelle, vous en êtes capable ou est-ce que ça vous pose d'autres de vraiment des sérieux problèmes?
J'ai pas trop compris la question en fait. Qu'est-ce que
C'est-à-dire, je pense que si on prend par exemple un catalogue diffusé depuis un géoserveur, il est généralement ignorant en fait des questions de confidentialité différenciée suivant les régions sur les données. Du coup, on peut utiliser de la donnée soit
Ouais.
anonymisée partout, soit anonymisée seulement, soit pas du tout anonymisée, c'est une question.
Ouais, alors en fait, on va avoir, non, ça va dépendre du contexte en fait. Dans le cadre de la directive Inspire, en fait, on a un catalogue qui est dédié et les données qui sont diffusées dans ce cadre-là, en fait, sont anonymisées et on n'a pas de confidentialité en fait. Ces données qui sont rapportées à l'Europe, donc elles sont complètement publiques. Généralement, il y a peu ou pas de données à caractère personnel. Donc, on n'a pas trop de contraintes liées à la diffusion, en fait. Les contraintes sont très techniques dans la mise en place de ces normes, en fait, qui sont très complexes à mettre en place et qui sont souvent, voilà, qui apportent pas grand-chose finalement en termes de richesse de la donnée, mais c'est une complexité technique, quoi, en fait, surtout. Voilà. Après, c'est dans le cadre de hors rapportage, en fait, toutes les données qu'on a, on a vraiment cette obligation de diffuser cette donnée et on est obligé d'appliquer ces contraintes de diffusion pour respecter bah, le desiderata des organismes, des partenaires qui nous transmettent de la donnée. En fait, là, même si on peut des fois être un petit peu hors légalité, parce que ces données, une fois qu'elles sont dans nos bases de données, on est un établissement public, elles deviennent publiques de fait, mais on est obligé de jouer un peu là-dessus quand même pour satisfaire tout le monde, quoi.
J'avais lu un rapport de l'INRA sur la question des sciences participatives et justement la question de la contribution privée en fait. Est-ce que vous acceptez des données qui font l'objet d'une contractualisation justement, ce qui était préconisé à l'INRA, hein, c'était qu'en menant des projets de sciences participatives, Il fallait penser bien en amont le plan de gestion de données, bien évidemment, mais certainement, par exemple, quand on parle d'un réseau de bénévoles, contractualiser avec eux les conditions de diffusion et réutilisation des données collectées.
Ouais, alors je maîtrise un peu moins là. On a une équipe là au sein de Patrinat là qui s'appelle Viginature en fait, qui gère les programmes de sciences participatives. Après, peut-être dire une bêtise, mais la contrainte, elle est très liée au RGPD en fait. Donc là, chaque contributeur en fait donne son consentement en participant au programme de sciences participatives. Et après, il n'y a pas de comment dire, y a pas de propriété sur les données biodiversité en fait. C'est une donnée qui est assez factuelle en fait. La loi en fait, il y avait une décision de la CADA en fait qui disait en gros que le fait de voir une espèce dans la nature c'était complètement factuel et on ne pouvait pas mettre de la propriété sur ces données. Donc une fois que ces données en fait sont dans les bases, elles deviennent publiques. Et ça, je pense, dans le cadre d'une science participative, c'est relativement accepté, il n'y a pas trop de problèmes là-dessus.
Et
Et
mais du coup, là, j'ai Marie-Claude qui dit que le point GPS d'une observation, c'est une donnée personnelle. Et pour les noms des personnes, on recode, séparation des informations.
ouais, alors oui, tout à fait. C'est une donnée à caractère personnel, mais la personne qui a fait l'observation n'a pas de propriété sur la donnée, en fait, ce que je voulais dire. Et souvent, dans le cadre de sciences participatives, ce qui est diffusé, c'est le pseudonyme. Donc, pas forcément possibilité de revenir sur le nom de la personne. Et les personnes, de toute façon, dans le cadre de ce programme, le fait d'y participer donne leur consentement à la participation du programme. Alors après, comment ils le contractualisent? Ils remplissent un formulaire en ligne en disant que j'accepte les conditions du programme? Ça, je ne pourrais pas vous répondre. C'est plutôt mes collègues là, qui sont en charge de ça qui ont cette information. Mais c'est plus
Marie-Claude,
facile.
ouais.
C'est plus facile à prendre en compte dans ce cadre de programme, parce qu'on peut avoir le sentiment l'accord de la personne en amont, en fait.
Ok. Et la question de Marie-Claude, c'est est-ce que vous avez une version non floutée des points GPS
Oui.
et une version floutée qui serait juste pour la diffusion?
Ouais, alors c'est là que j'ai peut-être pas été très clair en fait. C'est que là, je reviens sur le flux de traitement en fait. C'est que ce que j'ai dans la boîte de bancarisation en fait, là, on a l'ensemble des données avec toutes leurs informations, donc avec les noms des personnes, avec les coordonnées ou les objets de géoréférencement précises. Et c'est dans les modèles de diffusion, en fait, on va avoir une version qui va être précise, une version qui peut être dégradée. Et en fonction du contexte de diffusion, en fait, là, ce qu'on met, on aura une version qui peut être floutée, par exemple, pour le grand public, et une version précise. Par exemple, je ne sais pas, moi, le ministère ou un bureau d'études nous demande des données précises pour une étude d'impact. Là, on va faire une communication de données avec un type de licence qui restreint l'utilisation à l'étude d'impact, par exemple. Cette licence ne permettra pas la diffusion des données dans un autre cadre, en fait.
Le nom de la licence, c'est vous
Alors, on
pouvez le
l'appelait, nous,
donner?
c'est une licence qu'on appelle licence fermée, en fait, dans le cadre du SINP. C'est son nom, en fait, où on restreint l'usage des données. Et la licence qu'on utilise pour les données IGP, c'est-à-dire grand public, en fait, c'est la licence étalable, en fait. Et ça s'apparente à du CC BY.
Ouais. Éric Quinton me posait la question, est-ce que vous avez des algorithmes particuliers pour le floutage des positions?
Oui, ouais. Bon, c'est des algorithmes très simples, hein. En gros, par exemple, pour la sensibilité, en fait, on a différents, en fonction de la région, en fait, pour chaque taxon, en fait, on va mettre un niveau de sensibilité. En gros, soit il n'y en a pas, ou soit il y en a. Le niveau 1, ça va être une diffusion à la commune. Le niveau 2, ça va être diffusion à une maille 10 km par 10 km. Et le niveau 3, ça va être au département. Et niveau 4, ça veut dire qu'on n'a pas du tout le droit de diffuser la donnée. Et en fonction de la position de l'observation, en fait, on va appliquer cette règle. C'est relativement simple. Après, la difficulté, elle est sur la volumétrie de données. En fait, c'est des traitements qui peuvent être assez longs quand on doit les appliquer.
C'est une sorte de randomisation en fait des.
C'est pas une randomisation parce qu'on a des grilles, les cours. Alors on a, la commune, on a les couches communales fournies par l'IGN. Et puis pour les maillages 10 km, on diffuse des maillages qui font office de référentiel en fait. Donc on applique, on croise ces données avec ces référentiels et on les restitue à ce niveau-là, quoi. Mais on ne fait pas de
D'accord.
randomisation, en fait. C'est
Ok,
des
c'est
croisements géographiques
projection
avec,
dans une autre grille.
dans une autre grille. Hein.
Et vous avez déjà eu des retours de problèmes justement par rapport à ça, de données qui n'auraient pas été assez floutées? Parce que,
Oui.
oui.
Oui, ça arrive. Ça arrive que soit parce que bah, on n'a pas, soit on a des erreurs des fois dans nos traitements, hein, ça peut arriver, soit les listes de sensibilité, le temps nous de les appliquer dans notre système, bah, on va diffuser des fois qui peuvent être sensibles. Bon, ça peut arriver. Mais nous, sur ce type de données, en fait, c'est surtout le contexte d'acquisition et le fait que les données soient pas en majorité, mais en grande partie produites par des réseaux de bénévoles, en fait, notamment associatifs, où là, on a des restrictions, en fait. C'est un peu un trésor de guerre, la donnée biodiversité. Et donc, du coup, c'est aussi une manière d'exister, en fait, pour ces associations et de se valoriser. Donc, le fait, nous, de la diffuser précise, ça leur pose problème.
C'est sûr.
Voilà, donc c'est un dialogue qu'on doit avoir avec ses partenaires, qui est pas toujours facile, hein, mais...
Et la communication précise est autorisée pour des objectifs de recherche, par exemple?
Ouais, tout à fait, ouais. Après, il n'y a pas de. Nous, a priori, on ne refuse jamais, en fait. Il faut juste qu'on connaisse le contexte d'utilisation pour éventuellement le rapporter, parce qu'on a aussi une obligation, entre guillemets, de pouvoir rapporter à nos partenaires l'utilisation qui sont faites des données. Voilà, donc là, on a un process, on a un formulaire de demande en ligne qui nous permet de suivre ces demandes et de savoir les contextes d'utilisation de ces demandes. Et après, c'est sur la confiance de l'utilisateur de bien respecter la licence qu'en fait.
D'accord, parce que est-ce que vous avez des données de pêche, par exemple?
Ouais. Alors,
Et le...
ça va. Oui, on peut avoir des données de pêche. Alors, on a des données qui sont issues des réseaux de pêche électrique, dans le cadre des réseaux de suivi du milieu aquatique. On peut avoir des données aussi de pêche en mer, mais on n'a pas forcément de données sur les quotas, les quotas de pêche, ce genre de choses en fait. Ça va être des données de pêche qui sont rapportées en données biodiversité. Maintenant, on sait que dans je sais pas, une campagne de pêche, on va pêcher telle espèce, mais on n'aura pas forcément la quantité ou ce genre de choses.
D'accord. Donc c'est parce que vous pourriez avoir des, enfin, à l'heure actuelle la question est hyper sensible et pourriez avoir des, ben, c'est difficile de contrôler la malhonnêteté en fait. Vous faites confiance et puis voilà.
Alors, nous, les données qu'on récupère ne sont pas là pour contrôler les pêches, hein. C'est pour faire de l'inventaire sur la biodiversité.
Ouais. Est-ce que d'autres personnes ont des questions à poser?
Moi,
Non.
j'aimerais bien que Frédéric revienne sur le transparent d'avant, là, la page d'avant. C'est possible, merci.
Ouais.
Pourquoi tu fais une distinction entre jeu de données et observation? Parce que pour moi, c'est juste un schéma comme ça, parce que pour moi, tu pourrais mettre dans un jeu de données toutes les données, toutes les observations qui correspondent à la sensibilisation. J'ai pas compris la distinction que tu faisais.
En
Merci.
fait, toutes les données qui nous sont transmises sont décrites dans un catalogue, en fait. Et on a une base, on consolide des données qui proviennent de plein de partenaires, en fait. Et ce qui est important pour nous, c'est d'avoir le contexte d'acquisition. Et on essaye, dans la mesure du possible, hein, d'éviter que un jeu de, que chaque jeu de données corresponde à un contexte d'acquisition précis, notamment lié à un protocole, quoi, en fait, pour qu'on puisse mieux l'exploiter, notamment lorsqu'on fait du suivi du suivi d'espèces, etc., quoi, en fait. Et ces jeux de données sont généralement fournis par un produit, un fournisseur, tout ça, et on décrit tout ça dans ce catalogue, en fait. C'est pour ça qu'on fait bien la distinction. Et généralement, les règles d'anonymisation, restriction sont appliquées à l'ensemble d'un jeu de données, quoi. Et dans notre catalogue, actuellement, on doit être à peu près à 10 000 jeux de données, un truc comme ça, quoi, en fait. Donc on a plein de jeux de données qui ont la même structure, hein, parce qu'on standardise toutes ces données d'observation. On le même modèle de données, mais on veut faire la distinction de bien identifier le contexte d'acquisition. Je ne sais pas si j'étais très clair, en fait.
Ouais,
Si,
le
si.
contexte d'acquisition, il est au niveau du jeu de données, c'est le protocole suivi,
Ouais,
par
voilà.
qui ça a été réalisé,
Tout à
c'est
fait.
ça?
Et c'est là qu'on gère, par exemple, si on nous dit, voilà, les données doivent être anonymisées dans le cadre du GRPD, ou du RGPD, on va le faire sur l'ensemble du jeu de données. Alors, éventuellement, à la marge, on peut intervenir sur certaines observations, parce qu'une personne en particulier peut nous dire, toutes les données qui me concernent dans votre système, je veux que vous les anonymisiez, ça on peut le faire. Mais dans nos process de traitement, dans notre chaîne d'intégration, en fait, voilà, c'est notre fournisseur de données qui nous dit, en gros, ce jeu de données, vous l'anonymisez ou pas. Alors, clairement, on a très très peu le cas, en fait.
Bah, oui, parce que par exemple, la LPO, la Ligue de protection des oiseaux, elle sera plutôt intéressée à ce
À
qu'on
fait.
voit que eux, ils ont collecté des
Voilà.
données. C'est
Voilà. Et
ça?
voilà, tout à fait, dans le milieu naturalisme, en fait, les naturalistes ont plus propension à vouloir que leur nom apparaissent et qu'ils soient identifiés en tant qu'observateurs, qu'en fait plutôt que l'inverse, en fait. C'est arrivé, nous, ça nous est arrivé une fois qu'on nous demande d'enlever les noms, en fait, depuis l'application
Depuis,
du RGPD, en fait. Donc c'est très très c'est très
vous
rare,
les
quoi, en
mettez
fait.
en œuvre depuis 2 ans ou 3 ans?
Bah, on a essayé de le mettre en place, bon, après de plus ou moins bien depuis l'application du RGPD, donc en 2018, donc ça fait 3-4 ans maintenant.
Ouais, d'accord. Merci, je vous remercie.
Voilà. Et on peut
Est-ce
aussi
que
avoir des. Si on a aussi un cas qui est un cas un peu particulier, en fait, on gère des données, pour pas les citer, EDF, en fait, et eux ne veulent pas voir leur nom apparaître nulle part, en fait. Ils nous transmettent des données qu'on peut diffuser, par contre, ils ne veulent pas être identifiés parce que ça nécessite. On pourrait faire le lien entre des espèces potentiellement intéressantes et des lieux de production énergie, style centrale nucléaire, etc. En fait, et ça, on a ce genre de règles à appliquer aussi. Mais qui ne sont pas vraiment RGPD, c'est plus lié à un établissement public, un établissement qui ne veut pas être identifié.
D'accord. Donc il n'y a pas une règle systématique, c'est au choix du producteur de données.
Bah oui, on essaye, en fait. Ouais. Après, c'est la contrepartie pour récupérer ces données, en fait.
Ok. Je vais peut-être clôturer le webinaire. Si Frédéric, vous n'avez rien à ajouter,
Non, mais
nous avons trouvé votre présentation très claire et c'est encore un autre cas d'espèce, hein. C'est le cas de le dire que l'analyse de données de sciences humaines, c'est les espèces. Donc, j'espère que tous les participants du webinaire auront trouvé du grain à moudre et des cas de figure assez précis, leur décrivant comment ils peuvent répondre à leurs propres interrogations sur la question du respect des contraintes réglementaires dans les bases de données.
Je vais dire ce que je voulais écrire. Je disais, j'allais écrire que
Oui.
si dans le public des gens qui ont des retours d'expérience sur des domaines qu'on n'a pas traités, contactez-nous et on est prêt à organiser un petit, peut-être troisième matinée sur le sujet si il y a matière.
Oui,
Voilà.
n'hésitez pas.
Alors, je rappelle pour Chloé qui est muette et qui écrit en disant qu'elle a envoyé
Oui.
l'évaluation sur la discussion, non, sur, elle a mis ça sur les notes partagées.
Partagé. Je vais le
Voilà,
mettre dans
donc.
la discussion publique, comme ça,
Voilà.
voilà.
Donc, ça nous permet, nous, de savoir quel webinaire peut vous intéresser, quel thème peut vous intéresser pour des webinaires ou des actions. Et qu'est-ce que j'avais vu d'autre? Et que toutes les présentations qui ont eu lieu la semaine dernière, qui ont eu lieu aujourd'hui, seront les documents seront mis en ligne et
Oui.
que les enregistrements des personnes qui nous ont autorisés seront mis en ligne. Pour la première présentation, je crois qu'on va mettre un lien sur une autre présentation qui a déjà été faite, donc vous retrouverez le support aussi en vidéo. Voilà. Merci de votre
Ouais.
présence.
Merci beaucoup à vous pour votre présence et n'hésitez pas à remplir le formulaire d'évaluation et de prospective là pour qu'on fasse encore mieux la prochaine fois. Les présentations sont toujours sur le site RBDD. Voilà.
Mais on met toujours
Ah.
un. En réalité, elles vont être sur Science Conf, mais on mettra un lien sur le site RBDD.
Ah, d'accord. Oui, non, mais les présentations, ouais, les... Oui, oh, bon, ok. D'accord.